Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sacre de François Ier. C'était le 25 janvier 1515. Le 1er janvier de cette année 1515, François Ier devient roi de France au décès de Louis XII. Le 18 janvier, le jeune roi et sa mère, Louise de Savoie, suivie de la cour, à l'exception de la reine Claude, alors enceinte, quittent Paris. Le cortège arrive à Reims 6 jours plus tard. L'archevêque Robert de Lenoncourt accueille le souverain sur le parvis de la cathédrale et lui fait baiser les évangiles. Le roi assiste aux vêpres avant de rejoindre la résidence archiépiscopale. Dans la soirée, il revient discrètement dans la cathédrale pour procéder à ses oraisons, à l'instar d'un chevalier à la veille de son adoubement. À l'aube du 25 janvier, il est procédé à l'habillement du roi. François Ier enfile une chemise de toile ouverte devant et derrière pour l'onction, puis se couvre d'une tunique de soie blanche, également fendue, et d'une robe de damas blanc fourré. Peu avant 9h, il est conduit en la cathédrale par les évêques de Laon et de Beauvais, suivi des chanoines de Reims portant croix, cierge et encensoir, qui chantent en procession. Installé dans le chœur, le souverain est entouré des 6 pères ecclésiastiques et des 6 pères laïcs qui procèdent au couronnement. Dans un premier temps, François Ier est assis face à l'archevêque de Reims, dos à la nef. Il attend l'arrivée de la sainte ampoule qui, selon la tradition, contient l'huile céleste portée par une colombe à Saint-Rémy le jour du baptême de Clovis. Elle est employée pour le sacre depuis 869, quand l'archevêque Hincmar l'a utilisée pour oindre le roi de Lotharingie, Charles le Chauve. Avant l'onction, le roi promet de défendre les privilèges canoniques, les lois et la justice de l'Église. Puis, la main sur les évangiles, il s'engage à préserver la vie paisible du peuple chrétien, à empêcher les rapines et les iniquités, à faire respecter l'équité et la miséricorde dans ses jugements et enfin à exterminer les hérétiques. Après avoir baisé les évangiles, François Ier est mené devant l'autel où il s'agenouille. Là sont réunis les ornements royaux, la grande couronne, l'épée, les bottines, les éperons d'or, l'anneau et le sceptre, la main de justice, la robe et le manteau semé de fleurs de lys d'or. Le grand chambellan chausse le souverain de ses bottines, tandis que le duc d'Alençon, doyen des pères laïcs, attache les éperons qui sont aussitôt retirés. L'archevêque de Reims bénit l'épée royale appelée Joyeuse, qu'il sainte au roi tout en l'invitant à défendre l'Église et à détruire les ennemis du christianisme. Extraite de son fourreau, l'épée est embrassée par le souverain, puis déposée sur l'autel. L'archevêque rend l'épée nue au roi agenouillé. Il la confie au connétable qui la brandit durant le restant de la cérémonie. Vers 10h, survient l'instant crucial de l'onction. L'archevêque prélève une goutte de baume de la sainte ampoule avec une aiguille d'or. Il la dépose sur la patène avant de la mélanger aux crèmes avec son pouce. Les évêques et le chœur entonnent le Kyrie eleison. Les litanies achevées, François Ier s'agenouille et le consécrateur procède à l'onction sur 7 parties du corps royal. Le sommet de la tête, la poitrine, entre les épaules, sur chaque épaule et au repli des bras. Ce faisant, il prononce la formule latine signifiant « Je, toi, roi, avec l'huile sanctifiée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce à quoi l'assistance répond « Amen ». Le roi revêt alors la tunique, la robe et le grand manteau du sacre. Une ultime onction est réalisée sur la paume des mains, l'archevêque précisant qu'elle est accomplie sur le modèle de celle reçue par David du prophète Samuel. Il est maintenant 11h. Ouin, le souverain reçoit l'anneau, le sceptre et la main de justice. Les 6 pères laïcs s'assoient autour du roi avec les 6 pères ecclésiastiques, l'archevêque de Reims, les évêques de Laon, Langres, Beauvais, Châlons et Noyon. Ils procèdent au couronnement. Le consécrateur conduit François Ier à son trône qui est placé sur une plateforme. Une fois le souverain assis, l'archevêque l'embrasse et proclame « Viva Rex in aeternum ». Les autres pères reprennent cette acclamation, les trompettes et les orgues se mettent à sonner, le peuple s'écrie à son tour « Vive le roi ». Le Te Deum est ensuite entonné pour rendre grâce à Dieu et l'archevêque célèbre la messe. François Ier est invité à baiser de nouveau les évangiles, puis au moment de l'offertoire, il reçoit un broc d'argent rempli de vin contenant 13 pièces d'or qu'il dépose en offrande. La messe achevée, le roi est mené par ses pairs jusqu'au maître-autel où pour la première fois, il communie sous les 2 espèces, le pain et le vin. À 13h, précédé du connétable qui brandit toujours l'épée, François Ier sort de la cathédrale et gagne le palais archiépiscopal pour s'y restaurer. Il s'installe au centre de la table, les pères s'assoient à ses côtés selon une disposition analogue à la Sainte Cène. Après avoir quitté Reims, François Ier se rend à Corbeny, modeste localité de la vallée de l'Aisne, dans le diocèse de Laon, pour prier sur le tombeau de Saint Marcoul, guérisseur des écrouelles. Ce pèlerinage lui confère un pouvoir thaumaturge. Le roi se prête encore à une seconde cérémonie de couronnement en la basilique royale de Saint-Denis avant d'entrer solennellement dans Paris le 15 février 1515. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique Un jour trois livres qui a été préparée par Emmanuel. C'est Nicolas Perrac qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons son premier succès, c'était en 1975, So Far Away from LA.
Quelques lueurs d'aéroport, d'étranges filles aux cheveux d'or, dans ma mémoire traînent encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Thank you. far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Pauvre Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, chronique qui a été préparée par Emmanuel. Nous partons en Égypte avec Les grandes souveraines d'Égypte de Florence Quentin. C'est publié aux éditions Perrin. Nous connaissons tous Hatshepsut, Néfertiti, Néfertari ou encore Cléopâtre. Grâce au cinéma avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, ou encore la littérature telle le roman de la momie. Mais au-delà de ces clichés, voici ce qui va vous faire découvrir vraiment ces épouses, mères ou filles de pharaons qui ont influencé et marqué de leur cartouche l'histoire de l'Égypte. L'égyptologue Florence Quentin nous fait découvrir leur univers dans la pluralité de ses niveaux mythiques, historiques, institutionnels, en s'appuyant sur les dernières découvertes concernant ces souveraines pour dresser leur portrait. À travers le récit de ce que l'on sait de leur vie, se dessine aussi la condition de la femme égyptienne à cette époque. Dans toutes les classes de la société, celle-ci bénéficiait d'un respect assez rare dans le monde antique pour être mentionnée. L'Égypte ancienne fut tout à fait singulière dans sa façon de lui donner accès à des fonctions et métiers réservés habituellement aux hommes partout ailleurs dans le monde antique. Ce statut privilégié se reflète dans la position qu'occupèrent ces puissantes souveraines, qu'elles soient grandes épouses royales, régentes et même pharaons, au pouvoir absolu, comme ce fut le cas à trois reprises au Nouvel Empire, dont notamment pour Hatshepsut. C'est avec plus d'une trentaine de femmes que nous ferons connaissance dans ce livre accessible à tous, Les grandes souveraines d'Égypte. C'est signé Florence Quentin et c'est publié aux éditions Perrin. Place aux immortels de Patrick Kellar aux éditions Plomb. Au printemps 1915, Léon Cognard, lieutenant de gendarmerie, bourlingueur et anticonformiste, quitte sa brigade bretonne pour rejoindre le front de Picardie et prendre le commandement d'une prévôté de division d'infanterie. Sa nouvelle position est des plus délicates. Entre une bureaucratie tatillonne et l'hostilité légendaire des fantassins à l'égard des gendarmes, ces empêcheurs de tourner en rond, considérés comme des planqués. Lorsqu'il est confronté à un suicide suspect au sein de l'unité dont il doit assurer la police, Léon traîne l'affaire avec son opiniâtreté, traite l'affaire avec son opiniâtreté habituelle. Mais celle-ci l'entraîne dans un engrenage qui risque bien de faire trembler la grande muette sur ses fondements. Entre nécessité de guerre et idéalisme, ce roman a obtenu à l'unanimité le prix de la Gendarmerie nationale 2021. Ce prix récompense un roman inédit, littéraire, historique ou policier, dans lequel la gendarmerie ou le métier de gendarme occupe une place prépondérante. Place aux immortels de Patrick Kellar, c'est publié aux éditions Plomb. Enfin, Docteur B de Daniel Birnbaum aux éditions Gallimard. Dans un grenier à Stockholm, Daniel Birnbaum trouve des documents ayant appartenu à son grand-père, Immanuel, qui dévoile l'incroyable histoire de ce journaliste connu par son nom de plume, Dr. B, qui arrive en Suède comme réfugié au début de la Seconde Guerre mondiale. Fils du cantor de la synagogue de Königsberg, converti au protestantisme, condisciple de Walter Benjamin, il a fui le nazisme en 1933 pour être correspondant de journaux de langue allemande en Europe. À l'automne 1939, la capitale suédoise est au centre de négociations diplomatiques intenses et Emmanuel est aspiré dans un monde de double jeu. D'un côté, il travaille pour la maison d'édition Fischer, repliée à Stockholm, et aide des espions britanniques à diffuser de la propagande en Allemagne, mais d'un autre côté, dans une lettre rédigée à l'encre sympathique, il dévoile à de mystérieux correspondants allemands le plan anglais de faire sauter le port d'Oxelösund, par lequel transite une partie du minerai de fer nécessaire aux industries de guerre allemandes. Cette action devait forcer la Suède neutre à entrer en guerre. La lettre est interceptée et Emmanuel est arrêté par les autorités suédoises. Qui était-il vraiment ? Espion, résistant naïf, journaliste manipulé ? C'est bien là la question que pose Daniel Birnbaum dans ce livre « Dr. B » publié aux éditions Gallimard. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission qui s'achève en chanson avec Nicolas Perrac, un titre de 1977, « Je pars ».
Je pars, le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Soin de l'opéra, de la rue des Lilas, pire que cette fois. Ah, je tire un trait, je ferme la valise. Destination Zagreb via Venise. Je souffle la bougie. Je me dessine une folie, les doigts croisés sur l'infini. Je dis salut, et peut-être qu'un jour je serai de retour. Qui peut me dire comment l'exil vient aux errants. Je pars, le vol de nuit s'en va. Je garde ta tendresse, on me tiendra chaud le temps qu'il me reste. J'ai la gueule trop pâle qui rêve de lune et d'étoiles. Cette fois-ci je mets les voiles, je dis bon vent, peut-être à demain. N'oubliez pas frangin, je change de chemin. Destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba.
Thank you.